une petite, Bernadette, là, qui me dit, « Pasteur, j'ai chaud !» Parce qu'elle a loué. Bon, vous allez me dire, elle a loué, bon, elle s'amusait. Et alors, qui sait? Vous savez, on ne sait pas, hein, d'accord? Il faut j'ai déjà dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Alors, s'ils ne savent pas venir ici, ils vont venir comment à Dieu? Bon, soit, allez. Avant de commencer aussi, je voudrais accueillir ceux qui sont là pour la première fois, comme on le fait toujours. Ce n'est pas parce qu'on est obligé, hein, mais voilà. Alors, je vois des têtes que je n'ai pas l'habitude de voir ici, des visages, pardon. Pour être là-bas. Pourtant, il me semble que j'ai déjà vu ces visages, ou je me trompe, ou je ne sais pas. Et vous pouvez. Comment vous vous appelez en fait et vous venez d'où? Vous vous appelez comment?
Je m'appelle
Deborah. Oui. Ah, voilà. Italienne. Et vous êtes avec. Un petit peu. Voilà. Et vous habitez à Warem depuis longtemps? Cinq mois, voilà. Oh, ça va venir alors. Et vous aussi? Voilà. Et vous appelez donc, on peut savoir vos prénoms? Comment vous appelez? Sarah? Marcella? Et Deborah. Oui, ça va. Eh bien, je pense qu'il n'y a pas d'autres nouvelles personnes. Oui, mais non. Après, des toutes nouvelles personnes. Ils sont là pour la première fois, ils ne sont pas là pour la première fois. Voilà, alors on va vous accueillir. J'ai pas oublié. Voilà, qu'est-ce qui vous prend? Vous attendez? Ah oui. Voilà, c'est parce que souvent je dis attendez, voilà. Et alors, je vais accueillir aussi, vous croyez que j'avais oublié, donc, ma fille et mon beau-fils, Julien et Laurie, et surtout Timothy, puisqu'ils sont venus aussi pour vous le montrer. Donc après... à la fin du culte, on se le fera passer, comme ça vous le verrez vraiment bien. Voilà, et en tout cas, après on le voit déjà. Salut Tim. Bon, ils sont venus montrer mon petit-fils en fait. C'est très égocentrique comme façon de parler. Voilà, cette façon de parler. Ils ne sont pas venus montrer leur enfant, ils sont venus montrer mon petit-fils. Voilà. Bon, alors, je vais commencer la prédication et vous dire ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Pour vous ce matin, pour lequel je me suis battu aussi. Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire, etc. Vous savez, il y a des fois où ça va tout seul, puis il y a des fois où c'est un peu la bagarre. Cette fois-ci, c'était un peu la bagarre, et puis voilà. Mais le Seigneur a quand même fait ce qu'il avait à faire. Je crois, en tout cas, bon, je le crois vraiment. Bon, voilà. Eh bien, voilà, il dit qu'il est là. Bon, nous allons prier, ça va? Seigneur, nous te remettons cette prédication. Je lève les mains vers toi en te disant à quel point je reconnais, Seigneur, que sans toi, je ne peux rien. Chaque fois, je te le dis, Seigneur. Je ne peux pas changer les vies. Je ne peux pas toucher les cœurs. Je ne peux pas. Mais Seigneur, je m'offre à toi comme un outil dans tes mains afin que tu fasses quelque chose encore aujourd'hui pour que ton royaume revienne, pour que ton église grandisse. Oui, pour que ta gloire revienne, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Je t'ai assez prié. Amen. Amen. Voilà, eh bien, vous savez que pendant plusieurs semaines, oui, beaucoup même, j'ai parlé du fait que nous sommes des esclaves du Christ, d'accord? Ça va? Et que souvent le mot est mal traduit, on trouve des serviteurs dans la Bible, on trouve toutes sortes de traductions. Et bon, voilà, les traducteurs ont leurs limites. Et on le voit, c'est pour ça qu'il y a des gens qui étudient la Bible et qui... voilà, c'est pour ça que c'est si important. Et donc voilà, nous sommes donc des esclaves du Christ. Et aujourd'hui, on va dire que c'est un petit appendice à cette série de prédications. Pour une fois, j'ai été, on va dire, inspiré par un chant. C'est un chant qui m'a vraiment parlé, et je pense que c'est vraiment ça qui m'a conduit à faire cette prédication, et ce chant-là, on le chantera après. C'est un chant qui dit, Seigneur, tu fais un vin nouveau. D'accord? Tu fais quelque chose de nouveau dans les vies, autrement dit. D'accord? Et on le chantera après. Et cette prédication aussi, c'est un petit peu pour tenter de répondre, en tout cas en partie, parce que je ne peux pas répondre entièrement, on ne peut pas tout dire sur ce sujet-là, pardon, mais à une question qui revient. Oui, mais alors, ok, nous sommes des esclaves, nous devons faire la volonté de Dieu, mais comment discerner, comment savoir ce que Dieu veut de moi, comment savoir comment Dieu veut que j'agisse, etc. Eh bien, je vais essayer aussi, peut-être par cette prédication, d'y répondre en partie. Alors, nous avons vu déjà, et la fois passée, pas dimanche passé, parce que dimanche passé j'étais à Bruxelles, mais la dernière fois où j'ai prêché sur ce sujet, la dernière fois tout simplement, hein, nous avons vu comment devenir un bon serviteur, traduisons esclave, hein. Vous savez la différence pour ceux qui n'ont jamais entendu, parce qu'il y en a donc ici présents qui n'ont jamais entendu mes prédications sur ce sujet, la différence, enfin en tout cas très schématiquement, la différence entre un serviteur et un esclave, c'est que le serviteur, il peut s'attendre à une rémunération, donc à un salaire, parce qu'il est payé pour servir. L'esclave, lui, il n'a rien à... Il n'a pas de salaire. Enfin, je dirais, si, parce que Dieu est bon, mais l'esclave, lui, il n'a rien à donner et il a tout reçu. D'accord ? Ça, c'est une grande différence. Donc, voilà, comment devenir un bon serviteur ? J'en ai parlé donc la fois passée. Et j'ai dit ceci, c'est que le maître, il sait ce qu'il va faire avec toi. Vous vous rappelez de ça ? Il sait ce qu'il va faire avec toi et il va te qualifier pour cette chose, si tu le veux, en tout cas si tu le veux bien. Il va te qualifier pour cette chose pour qu'ensuite... Peut-être, il t'en confie une autre et ainsi de suite, et qu'il te rende de plus en plus excellent dans ce que tu fais, et qu'il te qualifie donc de plus en plus. Et comment fait-il ça? C'est un petit résumé en quelque sorte. Hein. Comment fait-il ça? Eh bien, il va le faire au travers de ton obéissance. Oui, et on a vu qu'obéir, c'est quoi? C'est prendre une décision. Et je vous ai invité donc la fois passée à prendre une décision dans les choses que vous savez, dans nos cœurs on sait qu'il y a des choses à changer bien souvent. On sait, Dieu nous montre des choses. Dieu n'a pas besoin d'envoyer un ange ou nous faire entendre une voix dans un buisson ou je ne sais pas quoi ici ou pour nous parler. Nous avons le Saint-Esprit et on s'attend toujours à des choses extraordinaires alors que déjà les choses que nous savons qui sont... notre conscience même nous parle parce que notre conscience c'est Dieu puisque nous avons l'esprit et déjà ces choses-là nous devons les changer et donc obéir c'est prendre une décision et je vous ai invité la fois passée à prendre une décision et je vous ai dit aussi qu'une des méthodes que Dieu utilise est celle-ci et on a pris un verset dans Osée 2 ou Osée chapitre 2 verset 14 qui dit ceci, c'est pourquoi je veux t'attirer et te conduire au désert et je parlerai à ton cœur. Voyez, donc des fois c'est la méthode que Dieu utilise où je parlerai à son cœur mais ça s'adresse à nous. Voilà, Dieu parfois il fait ça, il t'amène au désert parce qu'au désert il y a moins de distractions, et on entend mieux la voix de Dieu, quand on veut bien. Et le but, ce n'est pas d'être dans le désert, pour être dans le désert, mais c'est pour parler à ton cœur. Parfois, Dieu utilise cette méthode-là, pour que enfin tu l'écoutes, et pour que enfin tu règles cette chose, ou ces choses-là, pour que enfin tu les règles. Ce n'est pas parce que Dieu aime te faire passer par la transpiration, la chaleur, la soif, etc. Non, ce n'est pas pour ça. C'est parce que Dieu veut te parler pour faire quelque chose dans ta vie. D'accord ? Et ça, c'est une des méthodes de Dieu, ce n'est pas la seule. Parfois, nous pourrions éviter que Dieu nous y amène à ce désert. Mais alors, aujourd'hui, je vais continuer donc, hein, et je continue. Il y a différents déserts. Différentes sortes de déserts, évidemment, selon les vies et selon les choses par lesquelles on passe. Et il y a des raisons différentes pour lesquelles Dieu nous amène dans ces déserts. Le désert peut être quoi ? Eh bien, il peut être, et c'est de ça un petit peu que je vais vous parler aujourd'hui, de ça que je vais vous parler un petit peu aujourd'hui, oui, j'y arriverai. Le désert peut être ceci, c'est que les anciennes choses ne fonctionnent plus. Vous allez me comprendre, j'espère. Je ne sais pas si vous comprenez déjà comme ça maintenant, mais oh, ça ne fonctionne plus. Avant, ça fonctionnait. Ma prière, ça fon... je veux dire, ma relation avec Dieu, ça fonctionnait. Ça se passait bien. Et maintenant, ça ne va plus. Qu'est-ce qui se passe? L'Église, je sens que ça ne va pas. Je sens que peut-être je ne trouve plus ma place. Je ne sais pas. Peut-être je n'arrive plus à vivre ce que j'ai vécu dans l'Église. Ça ne va pas. Les anciennes choses ne fonctionnent plus. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Ça peut être un désert. Les anciennes choses ne fonctionnent plus. Et la raison est que Dieu est en train de te sortir, de nous sortir d'une forme de religiosité. Il est en train de nous sortir de notre confort. Parce que le confort, c'est quoi? Ce n'est pas le fait d'être bien. Dieu n'a rien contre le fait que nous soyons bien, au contraire. Mais le confort, c'est autre chose. Le confort, c'est la paresse de celui qui ne cherche plus. Vous voyez? C'est ça le confort. La paresse de celui qui ne cherche plus. Et il reste dans les anciennes choses parce que ça marchait. Et quand on aime, on cherche. Quand j'aime, je cherche. J'entretiens cet amour. Et je cherche ce que l'autre aime. Quand je suis amoureux, je cherche à faire plaisir à celui que j'aime. Et nous qui sommes chrétiens, enfants de Dieu, nous cherchons à plaire, à aimer notre Dieu. Et donc nous ne nous conformons pas à des anciennes choses pour nous y installer confortablement. Parce que ça, ce n'est plus aimer Dieu. Ça, c'est la religiosité. Et donc voilà, Dieu parfois permet que les anciennes choses ne fonctionnent plus. C'est parce qu'il désire t'amener dans cette espèce de désert spirituel pour que tu cherches à nouveau, pour que tu entendes sa voix, parce qu'il veut faire quelque chose de nouveau. Voilà. Donc pourquoi Dieu fait ça? Je viens de vous le dire et je vais un petit peu étoffer, je veux dire. Dieu veut qu'on dépende de lui. On l'a vu, vous voyez le rapport avec ce thème que j'ai traité pendant plusieurs semaines. Vous voyez, je dis ça un petit appendice, mais voilà, ça a quand même un rapport, n'est-ce pas? Dieu veut qu'on dépende de lui. Pas une dépendance qui a servi, qui a alourdi. Vous savez, ce n'est pas ça du tout avec Dieu. C'est une dépendance, c'est une communion. Vous voyez, c'est quelque chose de bon. Dieu veut qu'on dépende de lui. Et on ne le peut pas si on s'attache à des rites. Je ne peux pas dépendre de Dieu si je m'attache à des rites, à des façons de faire, à des habitudes. Parce que comme je viens de vous l'expliquer, ce n'est plus l'amour, ce n'est pas l'amour. Dieu, vous devez savoir ça, est un Dieu créateur. D'accord? Vous savez ça. C'est le Dieu qui a créé, il t'a créé, il a créé l'univers, il a créé. C'est un Dieu dont la créativité est sans limite. Et cette créativité, elle participe à sa grandeur. Ce n'est pas un Dieu qui a fait les choses et puis qui regarde comme ça, non. C'est un Dieu qui est, on pourrait dire, en mouvement. C'est un artiste, Dieu. Vous voyez? Il crée de nouvelles choses. On l'entend souvent dans des chants, mais on le chante comme ça. Dieu est celui qui crée sans cesse de nouvelles choses. Et il n'a pas avec nous une relation d'amour statique, mais une relation d'amour créative. Vous voyez? Qui se renouvelle. Et c'est important dans l'amour. Les couples doivent le savoir, de renouveler cet amour, d'être créatif, d'être attentif. Voilà comment est Dieu. Et si les choses anciennes ne marchent plus, demande-toi pourquoi. Je pense que c'est parce que Dieu veut faire quelque chose, il ne veut pas, il est en train de faire quelque chose de nouveau. Il est en train de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Est-ce que tu sais ça? Je voudrais que chacun se sente concerné. C'est à toi que je parle. C'est à toi que je parle. C'est pour ça que je tutoie. Il est en train de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Il faut le laisser faire, oui. Amen. Alors, la Bible est pleine de déclarations. On va le voir un petit peu comme ça, mais est pleine de déclarations, pardon, de Dieu en train de faire des choses nouvelles. Une chose nouvelle, c'est quoi? Ce n'est pas une chose simplement qui est transformée. Bien sûr, les choses nouvelles nous transforment. Bon, voilà, vous allez dire que parfois c'est une question de mots, mais je voudrais quand même insister là-dessus néanmoins. Une chose nouvelle, quand tu achètes une nouvelle voiture, est-ce que ça change ton ancienne? Quand tu achètes une nouvelle voiture, est-ce que tu continues à rouler avec la vieille rouillée? Non! Quand tu achètes une nouvelle voiture, tu roules dans la nouvelle voiture, elle remplace l'autre voiture. D'accord? Eh bien, avec Dieu, c'est la même chose. Il crée des choses nouvelles qui remplacent, c'est ça nouveau. Il crée des choses nouvelles qui remplacent les choses anciennes. On va prendre un petit texte. Est-ce que tu veux bien afficher, Maïté, Ésaïe, chapitre 43, et on va prendre à partir du verset 18. On pourrait prendre à partir du verset 16, mais c'est beaucoup de... Ça commence par... Le verset 16 commence comme ceci. « Ainsi parle l'Éternel. » Donc, voilà, on va quand même commencer pour avoir une phrase continue. Et puis alors, on dit « Ainsi parle l'Éternel. » Celui frayé un chemin dans la mer rouge, etc. Enfin, c'est l'Éternel qui parle, quoi. On est en train de dire, mais on insiste, c'est l'Éternel. Bon, oui, voilà, vous voyez, tu l'as affiché, tu as bien fait. Mais on va prendre le verset 18. « Ainsi parle l'Éternel. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Et voici. » Je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Et c'est ce qui se passe. Dieu est en train de faire une chose nouvelle. Dans l'Église aussi, dans vos vies aussi, je le répète, une chose nouvelle. Elle est sur le point d'arriver. Elle est en train de se faire. Elle est en train de germer. Elle est en train d'être construite. Ne la connaîtrez-vous pas? Est-ce que vous n'allez pas en jouir? Est-ce que vous n'allez pas la connaître? Si, bien sûr. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Waouh! Dieu va mettre un chemin dans le désert. C'est ça que Dieu veut faire. Il n'y a pas de doute. Je ne sais pas si vous m'entendez. Il n'y a pas de doute là-dessus. Cette affaire-là n'est pas à considérer comme peut-être. C'est ça que Dieu veut faire. Il attend une réponse de notre part. Il attend une réponse de l'Église, qui est en partie absente. Bon, ça c'est autre chose. Mais oui, mais bon, voilà, c'est quand même un peu ça. Hein. Voilà, trois petits points. Bon, parce qu'il attend une réponse de notre part, parce qu'il va faire ça. Il veut le faire, il n'y a pas de doute là-dessus, il veut mettre un chemin dans le désert. Quand il n'y a pas de chemin dans le désert, ce n'est pas facile. On va à gauche, à droite, on se perd, on a les pieds qui s'enfoncent, etc. Mais il met un chemin dans le désert, parce que ce n'est pas pour ça qu'il ne va plus avoir de désert, mais il met un chemin dans le désert. Et des fleuves dans la solitude. Des fleuves dans la solitude. Amen. Yes! Amen! Voilà. Et puis on voit au verset 21, « Le peuple que je me suis formé, publiera mes louanges. » Et voilà, on ne loue pas là comme ça le matin pour rien. C'est parce que je ne vous en veux pas parce que je suis comme vous, on est dans un apprentissage aussi avec Dieu, mais on n'a pas encore compris la puissance de Dieu. Et j'allais dire la puissance de la louange, mais ce n'est pas la puissance de la louange, c'est la puissance de Dieu dans la louange, c'est la puissance de Dieu qui est dans la louange, parce que c'est ce qu'il a dit. On n'a pas encore compris. Sinon, on se précipiterait pour être là déjà bientôt. Vous voyez? Et on se donne, on ferait comme Brigitte l'a lu, on louerait de tout son cœur. Peut-être tout le monde ne va pas sauter, tout le monde ne va pas danser, ce n'est pas un problème ça. chacun. Mais en tout cas, à notre manière, on va le louer, on va le chercher de tout son cœur parce qu'on sait, on sait. Est-ce que tu sais? C'est ça la question. Est-ce que tu sais? Oh, est-ce que tu sais que Dieu veut faire ça, va faire ça? Alors il attend une réponse de ta part. Il attend une réponse de l'Église. Amen. Vous devez venir avec un cœur bouillant pour lui. Vous devez vous préparer pour venir au culte. Vous devez être dans la prière, mais en apprêtant les enfants, dire « Oh Seigneur, j'ai soif de toi, je me réjouis d'aller à ce culte. Oh Seigneur, je veux te rencontrer. Oh Seigneur, quelle heure, vite, vite, vite !» Mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Amen. Parce que Dieu veut faire quelque chose. Il attend quelque chose de toi. Et c'est ça qui manque. Vous savez, Dieu des fois, oh, si on pouvait sentir le cœur de Dieu, des fois qu'il dit, « Oh, si vous saviez, mais pourquoi vous n'entendez pas, pourquoi vous n'écoutez pas, pourquoi ?» Vous voyez, j'assure, il faut entendre des fois le cœur de Dieu. Parfois, on peut pleurer des larmes de Dieu. Bon, les nouvelles choses... Dieu nous exhorte encore pour que vous voyez un peu que je n'invente pas, hein, d'accord ? Alors je ne vais pas citer des versets, tout ça, je n'ai pas le temps. On parle de chanter un chant nouveau dans la Bible. Et on le fait. Bon, c'est super, je n'ai jamais entendu de critique ici qui disait « Oh, on chante tout le temps des nouveaux chants qu'on ne connaît pas. Wow. » Parce que je sais, parfois dans des églises, ça peut être comme ça. Super. Continuez, même si avec notre réflexion, vous dites « Ouais, mais ça fait beaucoup et puis on ne les connaît pas encore. » Tous ces machins, si Dieu met à cœur des chants nouveaux, continue, on chante des chants nouveaux et tout ça. Je veux dire, il donne à son peuple un nouveau nom. Ça, on voit aussi, bon, j'ai des références si vous voulez, mais voilà. Il donne un cœur nouveau. Il t'a donné un cœur nouveau. Normalement. Un cœur nouveau. Un esprit nouveau. Nouveau, hein. Ça va ? Comme la bagnole, hein. Il remplace. Il t'a donné un cœur nouveau. Il a fait une nouvelle alliance avec son peuple. Et son peuple, c'est nous. Ils parleront des nouvelles langues. Il crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il ne va pas rafistoler, enlever le goudron des mers et mettre des nouvelles plumes aux oiseaux. En goudronné, je ne sais pas. Non, il va pas. Il fait un nouveau ciel, une nouvelle terre. Il est le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Amen. Il est le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Il fait de ta vie, et c'est ce qu'il veut faire, une vie nouvelle, avec des nouvelles pensées, des nouvelles façons de faire, un cœur nouveau, une joie renouvelée, nouvelle. Ça, c'est Dieu. Et en voici encore une autre chose, une autre de nouvelle. On va lire dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. C'est un verset que vous connaissez, mais que vous devez peut-être, qui doit mûrir, qui doit grossir, qui doit grandir en vous. C'est celui-ci, donc, 2 Corinthiens, oh, il y en a deux qui écoutent, c'est bien. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Dites-moi, si quelqu'un est en Christ, hein, trois petits points, vous savez quoi? Vous n'avez pas? Vous ne connaissez pas ce verset-là par cœur? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tout, absolument toutes choses sont devenues nouvelles. D'accord ? C'est nouveau. Bon, c'est pas pour ça que vous quittez la terre, c'est pas pour ça que vous quittez votre maison, on doit comprendre évidemment. Mais toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alors, es-tu une nouvelle créature ? C'est ça ? Es-tu vraiment une nouvelle créature? Oui, mais est-ce que ça se voit? Je veux dire, est-ce que tu le vis ça? Est-ce que tu laisses Dieu faire cette chose en toi, de créer cette nouvelle créature, parce que tu es une nouvelle créature, tu es né de nouveau. Est-ce que tu laisses Dieu faire son boulot. Parce qu'après, on est déçu, on critique Dieu, limite, mais on n'a pas laissé Dieu, on n'a pas donné cette réponse à Dieu, positive, de le laisser faire ce travail. Dieu fait de nouvelles choses dans les vies. Dieu fait de nouvelles choses dans l'Église. Dieu n'est pas un Dieu mort et statique. Dieu n'est pas une statue de pierre ou de bois. Dieu est un Dieu vivant, en mouvement, créateur. Et donc son corps, le corps de Christ, c'est qui? Le corps de Christ, c'est l'Église. Et donc le corps d'un Dieu vivant, en mouvement, créateur, doit lui ressembler. Et donc nous devons être, nous qui sommes, qui lui appartenons, qui sommes son corps en tant qu'Église, nous ne devons pas être différents de Dieu. Nous ne devons pas non plus être statiques et religieux, voyez, et conformistes. Non, nous devons être à l'écoute de la pensée de Dieu, à l'écoute de son cœur, à l'écoute de ce qui le réjouit, à l'écoute de ce qui fait le bonheur de celui que j'aime. Voilà comment... C'est à ça que Dieu t'appelle. Alors, oui, je réponds en partie. Je ne peux pas dire, ici, c'est pas, je ne peux pas dire, toi, Dieu veut que tu fasses ça, toi, et puis non, qui je suis pour dire ça des fois. Déjà, pardon. Parfois, Dieu peut permettre que révéler des choses, bien sûr. Mais au moins, je réponds, en tout cas, du moins en partie, n'est-ce pas, à cette question, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Eh bien, la première chose que Dieu veut que tu fasses, c'est que tu sois attentif à son cœur, ce qui plaît à son cœur. C'est ça qui est important. Comment donc entrer dans la volonté de Dieu? Quand je vous dis ceci, comment entrer dans la volonté de Dieu, ce n'est pas comment entrer, comment connaître la volonté de Dieu pour moi, pour mon travail, pour ceci, pour cela. Vous voyez, bon, oui, ça peut concerner ces choses-là, mais je parle de comment entrer dans la volonté de Dieu dans le sens de servir Dieu selon son cœur. Je parle de comment entrer dans la volonté de Dieu dans le sens comment je peux rentrer dans ce fleuve de Dieu. Voyez, c'est ça que je veux dire. Comment je peux faire ça? Eh bien, avant de lire deux versets, je voudrais répondre déjà en partie par une réponse très simple, mais trop souvent oubliée, en tout cas trop peu mise en pratique certainement, pleinement en tout cas. C'est comme ceci qu'on rentre dans le cœur de Dieu, dans la volonté de Dieu. C'est avec deux choses, le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, dites-moi, Jésus, on dit Jésus est Dieu. Jésus est venu sur la terre, et puis quand il est monté au ciel, il a dit, il est avantageux que je m'en aie, parce que je vous envoie un consolateur qui est le Saint-Esprit, et c'est avantageux, n'est-ce pas? Dites-moi, est-ce que quelqu'un voit Jésus ici, là ou là, en chair et en os? Parce que les gens disent, oui, il est ici parmi nous. Jésus est ici parmi nous. Oui, il est ici. Mais comment? Par son esprit. Jésus a dit, je vous envoie mon esprit. Et c'est l'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus-Christ. Donc voilà, c'est le Saint-Esprit, c'est lui qui nous conduit. Quand Dieu nous parle, il nous parle au travers de son Saint-Esprit. N'est-ce pas? Alors, parce qu'il ne faut pas dire, vous savez, parfois il y a certaines tendances, certaines églises qui auraient tendance à dire, on parle trop du Saint-Esprit. Mais c'est Dieu le Saint-Esprit. Qui a vu le Père? Je veux dire, face à face. Qui a vu Jésus-Christ en chair et en os? Non, il nous a envoyé le Saint-Esprit, qui est Dieu. Donc, on ne parle pas trop du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la parole de Dieu. Voilà comment je rentre dans le fleuve de Dieu. Il faut les deux. Certains croient qu'il n'y a que le Saint-Esprit. C'est-à-dire il y a que on cherche toujours à avoir des révélations, on cherche toujours à avoir des sensations, on cherche toujours ces choses-là. Mais le Saint-Esprit ne travaille pas sans la parole de Dieu. Et certains, malheureusement, et c'est comme ça qu'il y a des erreurs doctrinales, etc., certains, malheureusement, étudient trop peu la Bible, étudient trop peu la parole de Dieu et se laissent influencer par des enseignements qui ne sont pas bons, qui ne sont pas justes. Sachez que même les traducteurs de la Bible ont leurs limites. C'est pour ça qu'il faut étudier la Bible. Il y a des traductions, elles sont limitées tout simplement déjà à cause du français qui ne peut pas rendre parfois toute la profondeur de la langue originelle. Et puis il y a aussi les limites de ceux qui ont traduit, qui parfois étaient influencés par leur propre théologie, etc. Vous verrez dans des études bibliques qu'on fera qu'on en parlera un petit peu de ces choses-là. Et donc, tout ça pour vous dire que si vous voulez rentrer vraiment dans la volonté de Dieu, il ne faut plus vous laisser influencer par vos raisonnements fondés sur des mauvais enseignements. Vos raisonnements, c'est contraire à l'esprit. Des mauvais enseignements, c'est contraire à la parole de Dieu. Vous voyez ? Donc je cite ça. Le Saint-Esprit nous conduit au travers de notre étude aussi de la parole, parce que nous voulons connaître Dieu, c'est sa parole qui le révèle. Et nos propres pensées, nos propres raisonnements vont contre le Saint-Esprit et contre la parole de Dieu, parce que nous marchons parfois dans des enseignements qui sont faux. Je vais prendre un exemple, parce que je pense comme ça, je pense à ça. Je sais que dans certaines églises, ça viendra sans doute parce que l'église va grandir, on va dire, mais ici, à Warem, il y a du désordre, par exemple, voyez. Dieu est un esprit d'ordre, on voit que Dieu est un Dieu d'ordre, etc., etc., voyez. Et ils vont dire, ah oui, c'est pas bien, parce que ici on a vu des enfants, on laisse les enfants, mais ils couraient, je ne sais pas s'ils faisaient pour Dieu, etc., voyez. C'est quoi ça? Ce sont des raisonnements. Parce que dites-moi, qu'est-ce que Dieu aime? On est dans un moment dans la louange où... je ne peux pas faire toute une explication là-dessus, mais c'est, en tout cas, qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce qui plaît au cœur de Dieu? Pendant le moment de louange, qu'on se réjouisse, non? C'est une fête qu'on donne à Dieu. Et on cherche sa présence. On va empêcher les enfants? Maintenant, des fois, les enfants, il faut... Vous voyez, tout à l'heure, par exemple, j'ai appelé une petite, j'ai dit... Je regarde un peu, je dis, tu sais, tu peux danser. T'aimes bien, ouais. Bon, je dis, mais n'oublie pas pourquoi tu le fais. Hein. Tu sais pourquoi tu le fais? Ah, pour Jésus, ouais, tu n'oublies pas ça. Tu peux, tout ça, moi je... Vas-y, mais n'oublie pas. Et puis l'enfant, peut-être il va vite oublier, mais c'est un enfant. Vous allez l'empêcher parce que c'est un enfant, parce qu'il ne comprend pas tout. Vous allez empêcher quelqu'un de conduire une voiture alors qu'il a son permis, qu'il roule bien, parce qu'il ne connaît pas toute la mécanique et qu'il ne connaît pas... Vous allez faire ça? Non. Vous allez empêcher les gens de prendre... de participer au culte parce qu'ils ne comprennent pas tout, etc. Non, vous allez refuser de parler à votre enfant parce que vous dites il ne comprend pas, mais il ne comprendra jamais alors. Vous parlez à votre enfant. Dès qu'il est né, vous parlez, vous commencez à communiquer avec lui. C'est la même chose, voyez. Et donc ça, il faut... Voilà, c'est un exemple. Mais il faut une pensée renouvelée et une compréhension de la parole de Dieu renouvelée. Arrière la religion... Arrière les traditions, les rites et toutes ces choses-là. Parce que si nous voulons que Dieu fasse quelque chose dans nos vies, nous devons répondre par un oui de notre personne, par une attitude positive, par une attitude qui recherche donc le cœur de Dieu. Ça va, vous avez compris? Alors, je vous lis dans Romains, au chapitre 12, les deux premiers versets, certains savent que je chéris ce verset, surtout le 2, mais il est nécessaire qu'on en parle un petit peu, ça va? Et donc je vais vous lire ces deux versets. Paul dit ceci donc, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice. » Alors, voyez qu'il y a des choses, je suis sûr que certains ne comprennent pas ça. Vous savez que nous sommes tous prêtres. Ce n'est pas comme dans l'Ancienne Alliance. Maintenant, nous sommes tous prêtres. Alors, prêtres de quoi? On offre quoi comme sacrifice, puisque nous sommes prêtres? Nous sommes tous sacrificateurs. Eh bien, le sacrifice que nous offrons, c'est notre corps, c'est nous-mêmes. Et donc, par les compassions de Dieu, je vous exhorte, voyez, c'est ça que Dieu te demande, à offrir ton corps comme un sacrifice vivant. Vivant. Voyez ? Ça, c'est pas vivant. Oh, Seigneur, je sais pas, le truc, je sais pas. Enfin, bon, voilà, je ne dis pas que Dieu n'entend pas dans le silence, c'est pas ça. Je ne dis pas qu'on doit être exubérant, c'est pas ça. Moi, je ne le suis pas non plus, mais vous comprenez ce que je veux dire. Vivant, un sacrifice vivant. Saint, saint, saint. Comment il faut le dire ? Agréable à Dieu, agréable à Dieu. Est-ce que tu crois que ce que tu fais est agréable à Dieu ? Parce qu'il y a des choses qu'on fait, c'est pour nous. C'est pour se donner bonne conscience. C'est pour dire j'ai fait ça. C'est pour dire finalement je mérite que Dieu va m'aimer. Dieu va m'accepter. Dieu va... Où ça va, j'ai la conscience tranquille. Mais non ! Agréable à Dieu. C'est ça qui m'intéresse, c'est d'être agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est ça, ni plus ni moins que Dieu attend. D'accord ? Ensuite, vous voyez, c'est important parce que des fois, on lit un verset, mais voilà. Alors, il y a ce verset-là que je chéris tant. Ne vous conformez pas au siècle ou au monde présent. D'accord ? Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire ne vous conformez pas aux habitudes ? Ne vous conformez pas à l'institution de l'Église, peut-être ? Ne vous conformez pas à la religion. Parce que ce n'est pas ça, finalement, aussi, la pensée du monde. Parce que tout ce qui n'est pas la pensée de Dieu, c'est la pensée du monde. Ne vous conformez pas à la religion. Ne vous conformez pas à sa pensée. Ne vous conformez pas à votre intelligence. Ne vous conformez pas à ce qui vient de vous. Ne vous conformez pas au monde présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi ? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et donc, c'est cela. Comment entrer dans la volonté de Dieu ? Eh bien, comment discerner ? Ce verset le dit là. Le dit ici, pardon. La première chose à faire avant de discerner, avant de comprendre ce qu'est la volonté de Dieu, ce qui plaît au cœur de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire avant de discerner? Eh bien, il faut ne plus se conformer. C'est la première des choses, d'accord? Et ça, c'est très important. Ne plus te conformer. Je décide aujourd'hui. Alors tu peux dire ça dans ton cœur, je décide aujourd'hui de ne plus me conformer. Me conformer, je veux dire, à mes pensées, c'est ça, vous voyez, ne plus me conformer à ce qui ne vient pas de Dieu. Je décide d'accepter de ne plus me conformer à ma façon de faire, à mon confort, à ma paresse, parce que je veux aimer Dieu. Je décide ça, de ne plus me conformer. Avant de discerner, il faut ça. Et la seconde chose, c'est se laisser transformer. Amen. Me laisser transformer, je me laisse transformer. Ah ben oui. La nouvelle naissance, on en a parlé souvent, on en parle toujours, les chrétiens en parlent toujours de nouvelle naissance. Eh bien, c'est la nouvelle naissance, on parle aussi de conversion, d'accord ? Et la conversion, vous savez, c'est un demi-tour. Vous voyez, il y a une repentance, il y a un demi-tour. Un demi-tour complet, vous voyez, un changement complet. Je fais demi-tour dans tout, c'est une vie nouvelle, c'est un esprit nouveau, c'est une pensée nouvelle, c'est une manière de faire nouvelle. Mais je crois que beaucoup d'entre nous ont besoin d'une reconversion. Oui, parce que nous sommes, pardonnez-moi, mais nous sommes souvent convertis en partie. Nous faisons demi-tour en partie. Et nous sommes... On ne peut servir deux maîtres, dit la Bible, mais nous sommes divisés en nous-mêmes. Alors, nous nous convertissons. Nous marchions par là, nous marchions dans les ténèbres, et nous prenons le chemin large qui mène à la perdition. Et puis nous rencontrons le Seigneur et nous faisons demi-tour. Et nous disons, oh Seigneur, c'est vrai, je décide maintenant de te suivre. Je décide de prier, d'aller à l'église. Je veux que tu sois mon sauveur et mon Seigneur. Et puis, alors je commence à marcher dans l'autre direction. Et puis, alors que je marche dans l'autre direction, je commence à réfléchir. Et je m'aperçois que certains, ils font demi-tour. Vous voyez ? Mais il y a quelqu'un qui marche comme ça. Vous l'avez déjà fait, hein, voilà. Alors, mes pensées, ah ouais, mais quand même, c'est pas bien ça. Et puis, on se prend des pelles en plus. Ah oui, et puis alors, donc, ouais, non, il faut que je marche quand même. Puis, oh, l'argent. Oh, c'est moi qui décide, c'est mon argent. Et puis alors, je sais pas moi, je me conforme, voyez. Oh Seigneur, je veux te suivre. Ouais, mais je veux réussir, moi, dans la vie. Oh là, mon travail, moi. Oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Et comment je vais devenir quelqu'un de reconnu? J'ai besoin de m'épanouir. On recule et on se prend des... Il y a besoin de reconversion. Parce que on rencontre trop de chrétiens qui sont convertis en partie. Ils sont divisés en eux-mêmes. Tout est nouveau. Je pense autrement. Il faut une vraie conversion. Une vraie. Tout doit être converti, jusqu'à ma veste, parce qu'il y a mon portefeuille dedans. Non, mes ambitions, tout. Je vis pour Dieu. Amen. Alors, voyez que, il y a encore un petit verset que je vais vous lire, je vais en passer. Hein. J'ai déjà supprimé certains versets, parce que sinon je ne terminerai jamais. Maïté, tu peux... Affiché 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Si nous faisons ça, si nous acceptons ce changement et cette transformation, eh bien voilà ce que, en quelque sorte, voici comme, j'ai envie de dire, comme une promesse. Une chose normale dans la vie d'un chrétien, une chose évidente. Nous renversons. Ah, Paul disait ça. Nous renversons les raisonnements. Voyez, nous renversons, et moi je renverse le bazar ici presque. Nous renversons les raisonnements. Voyez, à terre les raisonnements. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Parce que, autrement dit, les raisonnements, mes raisonnements s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et connaître Dieu, c'est une intimité. Mes raisonnements s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Non, c'est pas comme ça. Non, on prie à genoux, avec les mains, comme ça. On prie pas comme ça. On prie pas couché, on prie pas debout. Non, on fait comme ça. Non, etc. Mes raisonnements s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Eh bien, nous renversons ces raisonnements. Et nous amenons toute pensée captive... Esclave de Christ, tiens. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Amen. Et donc nous refusons tous les raisonnements. Je refuse les raisonnements dans ma vie. Et les raisonnements du monde. Nous refusons les raisonnements dans cette église. Non aux raisonnements. Parce que nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Nous voulons que toute pensée soit captive à l'obéissance du Christ. Nous ne voulons pas de raisonnement. Amen. Voilà ce que Dieu veut pour l'Église. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. La religion te laissera tel que tu es. Parce que la religion laisse les gens tels qu'ils sont. La religion te laissera tel que tu es. Tu sortiras dimanche après dimanche de l'Église tel que tu es. Parce que la religion ne change pas les vies. La religion te laissera tel que tu es. Seule la foi... Ah, mais la vraie foi, qui est un abandon, une recherche donc, on vient de le voir, de ce que Dieu veut, un abandon total à lui, permet à Dieu, si toutefois on peut permettre quelque chose à Dieu, mais c'est une façon de parler, seule la vraie foi, l'abandon total, permet à Dieu d'opérer dans ta vie. Amen. Vous avez compris ça? C'est primordial, de première importance, d'avoir un cœur accordé, ouais, comme des instruments, s'ils ne sont pas accordés, ça ne va pas. Hein, ça n'arrive jamais de toute façon, mais donc mon exemple n'est pas... Voilà, non, sérieusement, c'est de première importance primordiale d'avoir un cœur qui est accordé à celui de Dieu, de manière à prendre plaisir aux choses qui sont agréables au cœur de Dieu. C'est important d'avoir un cœur accordé à celui de Dieu afin de prendre plaisir à prendre plaisir dans les choses auxquelles Dieu prend plaisir. C'est ça qui est important. C'est pas oui, mais... À quoi Dieu prend plaisir? À quoi Dieu prend plaisir dans ta vie? Est-ce qu'il prend plaisir dans les choix que tu as faits là? Est-ce que Dieu prend plaisir aux choix que tu as faits? Est-ce que Dieu prend plaisir aux décisions que tu as prises? Est-ce que Dieu prend plaisir à la direction que tu prends? Est-ce que Dieu prend plaisir à tes géniflexions, à tes prières? Est-ce que Dieu prend plaisir? Ou est-ce que tu cherches le cœur de Dieu? C'est extrêmement important d'avoir le cœur accordé au cœur de Dieu. Et comme exemple, Brigitte, je lui pique ces versets aujourd'hui. Vous voyez ce texte qu'elle a pris où on voit David qui danse là. Vous voyez, je lui ai déjà piqué un texte tout à l'heure où on voit pas que les choses anciennes sont passées. Mais vous voyez, on voit David. Ce n'est qu'un exemple parce que, je vous le dis, tout le monde, ce n'est pas qu'on doit faire tous la même chose. Mais voyez, comme David sautait, dansait. Il dansait, dit le texte, de toutes ses forces. Vous voyez, c'est fou ça quand même. J'ai relu ce texte-là, je me dis, waouh, quand même. Il dansait de toutes ses forces. Et vous voyez dans ce texte-là, si vous le relisez, les conséquences du mépris de sa femme, Michal. Elle l'a méprisé dans son cœur. Faisons donc attention parce qu'il y a un avertissement. Parfois, on est là comme ça et on méprise. Hein? Qu'est-ce qu'elle fait celle-là à bouger comme ça? Elle a toujours besoin de se faire remarquer ou quoi? Je sais. Qu'est-ce que tu sais, toi, avec tes raisonnements? Qu'elle ne cherche pas à plaire à Dieu, qu'elle ne cherche pas le cœur de Dieu, etc. Fais attention. Parce que Michal, ce qui lui est arrivé à cause de ça, elle a été rendue stérile. Voyez? Parce qu'elle a méprisé. Alors que Dieu a agréé, Dieu a aimé ce que David a fait. Il a aimé. Et David a dit. David a dit. Il a dit quoi? Parce qu'il faut que je retrouve le texte. Voilà. Et il dit, je paraîtrai encore plus vil. Oh, tu parais vil. Tu te fais passer pour un idiot. Eh bien, je paraîtrai encore plus vil. Parce que je danse pour Dieu. Et je m'abaisserai encore à mes propres yeux. C'est ça que David dit, ça a plu à Dieu. Je m'abaisserai encore à mes propres yeux. D'accord? Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Non, mes servantes, etc. Non, ne t'inquiète pas que je serai encore honoré. Parce qu'elles vont voir après. Moi, je me dis à ça là-dedans, elles vont voir après. Amen. Voilà, alors, en effet, la Bible dit, tu affiches le verset si tu veux bien, c'est toujours dans 1er épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Que nul, que personne ne s'abuse lui-même. Quelqu'un parmi vous, est-ce qu'il y a quelqu'un peut-être parmi vous qui pense être sage? Il a sa tête remplie des enseignements, il est né dedans, il est né dans la marmite, il est tombé dedans quand il était petit, tellement il était, ça fait tellement longtemps qu'il est cuit, qu'il est à point. Vous voyez, c'est rentré, tous les enseignements, fais pas ci, fais pas ça, touche pas ci, touche pas ça, fais comme ceci, fais comme cela, ça a toujours été comme ça. Plein de religions, plein d'obligations, l'esprit qui n'est pas renouvelé, une conversion à mi-temps. Est-ce que quelqu'un parmi vous est comme ça? Est-ce que quelqu'un pense être sage, selon ce siècle, selon la pensée peut-être de nos églises, de nos influences actuelles, du protestantisme ou je ne sais quoi? Eh bien qu'il devienne fou. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Vous voyez, les sages font des trucs, mais il les prend dans leur propre ruse, c'est ça que ça veut dire. Hein. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Et il sait qu'elles sont vaines. C'est profond, ça. Le Seigneur sait les pensées. Ça, il sait. Il sait ce que tout le monde pense. Et il sait que ta sagesse, bien, hein, sage, mais c'est vain, du vent. Voyez? Alors, Maïté, tu peux afficher la petite phrase que je t'ai demandé d'écrire, parce que comme ça, j'aimerais que vous allez mieux la retenir en la voyant. Voici un enseignement qui est très important à assimiler, donc le digérer, en prendre toutes les vitamines et tout, et bien, voilà, c'est cette phrase. J'aimerais bien que je vous la lis, en même temps j'ai demandé qu'on la note. Les pensées du cœur d'un homme non régénéré par le Saint-Esprit sont toutes mauvaises pour Dieu, même si elles paraissent être bonnes, même si elles ont l'air bonnes. Je répète, vous l'avez devant vous, les pensées du cœur d'un homme non régénéré par le Saint-Esprit sont toutes mauvaises. Pour Dieu, elles sont toutes mauvaises. Même si ce sont des bonnes pensées. Parce que je dois marcher par l'Esprit. Et même parfois de bonnes choses que je fais, non, ce n'est pas ça que Dieu veut. Oui, c'est bien de faire des bonnes choses, c'est mieux que faire des mauvaises, mais ce que Dieu veut, ce n'est pas ça, c'est que je marche par l'Esprit en marchant selon les battements du cœur de Dieu. Amen. Vous voyez, c'est ça que Dieu veut. Alors, je peux être poli. Tu peux la laisser afficher à un moment. Je peux être poli, je peux être gentil. Je peux donner des sous aux pauvres devant les magasins. Je peux faire tout ça. D'ailleurs, la Bible en parle, même de donner son corps en sacrifice, etc. Eh bien, les pensées humaines, Dieu n'en veut pas. Alors, ce n'est pas qu'il ne veut pas qu'on fasse ces choses-là, mais il veut qu'on soit en accord avec son cœur. Dieu n'en veut pas comme tel, vous voyez ? Parce qu'elles sont en dehors d'une parfaite dépendance envers Dieu. C'est ça que Dieu veut, une parfaite dépendance envers lui, une parfaite soumission envers Dieu. N'est-ce pas, esclave ? Une parfaite communion avec mon Dieu. Voilà ce que le Seigneur veut. Alors je vous l'ai dit, il ne s'agit pas d'être tous les mêmes, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi dans l'Église ou même en dehors, parce que de toute façon, ma prédication ne porte pas que sur le comportement dans l'Église ou nos cultes, bien que ça parle de ça aussi, mais de toute ta vie ça parle. De toute ma vie ça parle, de ta vie ça parle, de ma vie ça parle, de l'Église. Attention, je vous l'ai dit souvent, attention aux imitations. Parce que si je viens un jour devant ici commencer à faire des élucubrations alors que je ne suis pas poussé par le Seigneur, mais c'est de l'imitation. Et l'imitation, c'est un mensonge. Je montre quelque chose qui n'est pas vrai. Donc, vous voyez, enfin bon, il ne faut pas se prendre trop la tête non plus, n'exagérons pas. Je pense que le Seigneur a besoin de pousser certains, il a besoin de retenir d'autres. Bon. C'est à vous de savoir, mais je veux dire, faisons les choses en cherchant le cœur de Dieu. C'est tout, je n'aurais que ça à dire. Voilà. Parce qu'il y en a certains, ils sont tellement ouverts à tout, n'est-ce pas ? Bon, il ne faut pas non plus exagérer. Je crois qu'ils ont une fracture du crâne tellement ils sont ouverts. Bon, alors, c'était une blague. Personne n'a compris, parce qu'elle n'est pas très subtile pourtant. Mais bon, voilà. Alors, comment ? Non, elle n'était pas bonne. Hein. Zut, pas assez subtile pour vous. Hein. Voilà. Alors, ces pensées, si elles sont en dehors d'une parfaite dépendance de Dieu, elles ne sont pas bonnes. Voilà, ça va ? D'accord ? Alors, il vaut parfois mieux ne rien faire que de faire les choses si on n'est pas poussé par Dieu. Mais bon, voilà, ça, on peut en reparler si vous voulez, mais voilà, comme je l'ai dit, certains, Dieu doit pousser certains, Dieu doit retenir certains autres. Alors, la conclusion est celle-ci. Nous avons été libérés de l'esclavage. Amen ? Ce n'est pas pour y retourner. Nous avons été libérés de l'esclavage du péché. Mais souvent, on retourne à nos chaînes parce que quelque chose en nous continue d'aimer ce qui est passé et nous réconforte et nous préférons rester comme ça. Parce que nous avons peur, nous sommes confortablement installés et nous ne voulons pas changer. Mais ça, Dieu n'en a que faire. D'accord ? Je vous l'ai expliqué. Ça va ? Je ne vais pas y revenir. Alors, on continue d'aimer ce qui est ancien quelque part. Votre responsabilité, notre responsabilité en tant que chrétien, que disciple du Christ, en tant qu'individu et en tant qu'Église, est de conserver ce que Dieu nous a donné. Veux-tu, c'est ça ma question et ma conclusion aujourd'hui, veux-tu laisser Dieu produire quelque chose de nouveau dans ta vie ? C'est une question ? C'était une question ? C'était une question. Veux-tu laisser Dieu produire quelque chose de nouveau dans ta vie aujourd'hui ? Ah, Il y en a trois quand même. Veux-tu laisser Dieu remplacer ce qui est ancien? Veux-tu laisser Dieu remplacer ce qui est périmé? Veux-tu laisser Dieu remplacer ce qui a dépassé la date de péremption et de consommation et qui n'est plus, donc qui n'est plus consommable, qui n'est plus bon, par quelque chose de frais, de bon? Amen, il y en a trois. Veux-tu laisser Dieu enlever ces anciennes choses? Veux-tu laisser Dieu te sortir de ta zone de sécurité pour t'emmener dans des zones et des endroits un peu plus inconfortables? Est-ce qu'il y en a deux qui peuvent dire amen? Veux-tu te conformer au cœur de Dieu et ne plus te conformer à ton cœur? Ou préfères-tu? Préfères-tu que tout reste dans le même état? Il n'y a aucun qui dit amen, merci. Préfères-tu que tout reste dans le même état? Non. Et ça sera ma conclusion. Et je vais inviter le groupe de louanges et on va chanter ce chant qui m'a tant inspiré. Et vous savez, les paroles de chant, pendant qu'ils montent, je vous les lis, mais pas toutes, hein, parce que celles qui sont répétées trois fois, je ne vais pas vous les lire trois fois, je vais les lire qu'une fois. Et ce chant, il dit ça. Il dit, sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Ah tiens, cette pression, ce ne serait pas les aiguillons, là, des fois, hein, voyez, dont on a tant parlé. Tu fais un vin nouveau. Et ce chant dit, je renonce à mes propres voies, tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Ça c'est beau, n'est-ce pas? Parce que il y a une prédication dans ce chant-là. Quand je suis dans les bras de Dieu, quand je m'abandonne à lui, je n'ai rien à craindre. Alors, ce chant dit, fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à t'offrir, Jésus, parce que tu m'as tout donné, n'est-ce pas? C'est vrai, hein? Fais déborder ma vie d'un vin nouveau, quand le vin est nouveau, et ça c'est quelque chose de bien, quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Quand ce vin dans l'église, quand ce vin sera bon à être servi, la puissance aussi sera nouvelle. Amen. La puissance sera nouvelle aussi. Il y aura la liberté. Parce que quand le vin est nouveau, la liberté est là, dit le chant. La liberté est là. Le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes, mes souvenirs de quand je chantais debout, comme ça, avec plein de ferveur, un chant des ailes de la foi qu'on pourra peut-être chanter, mais c'est une image, hein, c'est caricatural. Il y a des beaux chants dans les ailes de la foi. Mais voyez le truc, et on en rechantera encore, mais c'est une image, voyez. Je laisse mes anciennes flammes, comprenez ce que ça veut dire, pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Laisse tes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en toi. Yes, pour ne pas dire amen. Voilà. On va chanter le chant.